Un mot pour commencer cette émission sur deux films, deux mots donc, De Gaulle et Dark Waters. Lambert Wilson, touchant, campe un De Gaulle jeune au moment du choix. On est à la veille de l'appel du 18 juin et le général fait face à son destin. Belle mise en scène de Gabriel Le Baumen, Isabelle Carré remarquable, beaucoup d'intimité aussi pour ce film qui décrit bien la relation de De Gaulle avec sa jeune enfant handicapée. Un bel hommage à l'homme du 18 juin que je recommande plutôt. Autre film, autre genre, Dark Waters, une fiction américaine sur la pollution de l'environnement et la contamination des hommes autour de l'entreprise qui fabrique le Tefal. Vous savez, les poils Tefal par exemple. Dans la série des films écolo-politiques, Dark Waters montre le lobbying des grandes entreprises, parfois aux dépens de la vérité scientifique ou médicale. Au cœur de l'intrigue, les pratiques toxiques de l'entreprise chimique DuPont, hein, DuPont en anglais, qui produit le Teflon. Évidemment, c'est un film basé sur des faits tout à fait réels. L'acteur Mark Ruffalo, qu'on avait aimé dans Avengers, est efficace pour son flegme, dans le rôle clé de l'avocat lanceur d'alerte. Alors après les vaches folles, les pesticides, les grille-pains amiantés et donc le coronavirus, voici les poils Teflon criminels. Le film est terrible, désespérant même quant à la possibilité d'une régulation du marché en rapport à la pollution ou à la sécurité alimentaire. Et pour cette raison, il mérite vraiment d'être vu. De Gaulle est proposé sur 608 écrans en France et le film a connu un bon début déjà pour un film français historique avec 120 000 entrées. Le premier jour de sa sortie, ce mercredi, Dark Waters connaît un succès plus relatif en seconde semaine avec 158 000 entrées. Depuis sa sortie, chiffre CBO Box Office pour France Culture. I should have known. I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie?
À l'instant cinéma. Cinéma encore et musique en cette journée internationale du droit des femmes. Un clin d'œil au succès déjà important d'une chanteuse de 18 ans qui bat tous les records de streaming depuis la sortie du morceau mi-février, Billie Eilish avec No Time to Die, la bande originale du nouveau James Bond. Le film, on l'a appris vendredi, a été reporté d'avril à novembre à cause du coronavirus. On aura donc un peu plus de temps to die. Un mot encore sur Billie Eilish. Au Grammys Award fin janvier, elle avait déjà raflé le Grammy du meilleur album, celui de la meilleure chanson, celui de la révélation ou encore de l'enregistrement de l'année. 4 Grammys pour cette chanteuse donc de 18 ans, à la voix cool et décalée, obsédante même. Elle a fait la une de Elle, de Vogue, de Glamour ou encore de Grazia. Et pourquoi pas Billie Eilish, femme de l'année.
Nous avons toujours basé nos décisions sur le comité d'évaluation de la santé publique. Contre la défiance et le complotisme, seule la vérité compte. La vérité est l'antidote la plus forte contre le virus. On doit faire plus d'efforts. Nous devons le faire ensemble. Commençons par les bonnes nouvelles. En Italie, la plus grande partie des personnes contaminées réagissent bien. Alors pourquoi tant de précautions, vous me demanderez? Ceux qui sont contaminés ont besoin d'une attention continue et intensive. Cela veut dire que tant que les chiffres sont bas, nous pouvons lutter efficacement contre le virus. Mais si nous devons faire face à une croissance exponentielle, ni l'Italie, ni aucun pays au monde ne peut affronter une telle situation d'urgence. Notre premier objectif doit donc être de limiter la contamination. Nous devons faire cet effort ensemble. Nous ne devons pas mettre en jeu toutes nos vies, mais nous devons assumer un comportement responsable.
Cette nuit donc, le gouvernement italien et son président du Conseil, on l'écoutait à l'instant, traduit par Zoé Sfez, quasi en direct, Giuseppe Conte, ont décidé, peu après 2h du matin, une alerte nationale au coronavirus et une série de mesures extraordinaires jamais vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Une large partie du nord du pays sera confinée, y compris des villes comme Milan, Parme ou Venise. Un cinquième de la population et la partie la plus riche de l'Italie sont ainsi placées en quarantaine. Plus aucun transport interrégional. Interdiction de sortie de son bassin de vie sans autorisation spéciale. D'autres mesures spécifiques sont étendues à tout le pays. Toutes les écoles sont désormais fermées. Tous les cinémas, les musées, les boîtes de nuit, les spectacles, les salles de jeux, les festivals, les concerts, mais aussi les funérailles qui auront lieu sans public et toutes les messes. Il faudra donc les voir à la télé si on veut voir la messe, sans compter de nombreux événements sportifs annulés et cela donc sur l'ensemble du territoire italien. En sacrifiant son économie à court terme pour préserver le pays du coronavirus à moyen terme, l'Italie fait un choix risqué et radical qui devrait être en place au moins jusqu'en avril. Sachant que la France se situe en gros une à trois semaines après l'Italie en termes de nombre de contaminations, 6000 cas déjà en Italie et 233 décès, essentiellement des personnes de plus de 80 ans ou en situation médicale fragile, peut-on imaginer, prévoir, craindre, s'attendre aux mêmes mesures en France prochainement? Nul ne sait, mais nul ne peut tout à fait l'exclure. Emmanuel Paquette.
Oui, surtout qu'on voit l'impact économique que ça a sur le monde de la culture. Alors, avant de parler de l'Italie, déjà en Chine, puisque le premier pays concerné par la vague de coronavirus a été la Chine, sur la période de janvier à février, les recettes au box-office ont diminué de 2 milliards de dollars, 1,9 milliards pour être précis, selon les chiffres de Comscore, avec 70 000 salles aujourd'hui qui sont fermées dans l'empire du milieu. Alors, c'est d'autant plus problématique que Disney s'apprête à lancer le 27 mars, normalement en Chine, ou s'apprêtait plutôt à lancer en Chine, Mulan, qui est l'un des plus grands titres attendus pour Disney cette année, avec un budget record quasiment de 200 millions de dollars, et qui doit sortir sur les écrans français le 25 mars. Mulan, aujourd'hui, c'est un grand pari pour Disney, notamment pour le marché chinois, puisque le dessin animé avait très bien fonctionné, et donc le film en prise de vue réelle, on en attendait tout autant, mais là, le coronavirus est arrivé. De même, en Italie, on voit une fréquentation des salles de cinéma qui a chuté de 75%, avec la moitié des salles qui sont aujourd'hui fermées, 850 sur 1830, et des tournages de grands films hollywoodiens qui sont déjà à l'arrêt. Mission Impossible 7, qui devait être tournée à Venise pour l'instant, est arrêtée.
Tom Cruise.
Avec Tom Cruise, évidemment. Et puis Notice Rouge, donc qui est un film de Netflix, le plus gros film de Netflix, avec un budget de 160 millions de dollars avec l'acteur Dwayne Johnson, devait être tourné en partie également en Italie. Et là, pour le coup, le scénario a été totalement révisé et ça ne se passera plus en Italie. Donc, des grands problèmes aujourd'hui pour le marché italien, pour le tournage des films et notamment des films à gros budget qui venaient des États-Unis.
Alors, notamment, on pense aussi que Black Widow de Disney, Fast Furious 9 d'Universal pourrait être, c'est pas encore décidé, mais le débat existe sur le report de ce film, comme on l'a dit tout à l'heure, le nouveau James Bond qui est reporté d'avril à novembre. Sur d'autres domaines, Zoé Sfez.
Ah, écoutez, on va quand même parler de l'Italie et d'un petit endroit pas très successful en Italie que sont les musées. Bon, faut quand même rappeler que c'est 13% du PIB de l'Italie, hein, le tourisme et notamment les musées. Il y avait une exposition après la grande année de Vinci. Il y a une exposition Raphaël qui a fermé au bout de 3 jours seulement à Rome. Bon, c'est un vrai problème pour ce pays de devoir se passer à la fois de ses touristes et de ce que génèrent ces musées, les visites, etc. Donc effectivement, c'est un choix assez important et politiquement important de faire celui de la quarantaine. Parce que là, on a parlé des salles de cinéma, mais donc tout est fermé à partir de demain. Ce qui donne aussi lieu à des vrais, on l'a entendu tout à l'heure quand il l'a dit, Conte, des vraies remises en cause de la part d'une partie du public, d'une partie de la population, il y a une vraie peur de la crise, vu que dans les régions concernées, les gens n'avaient plus grand chose à faire parce qu'il n'y avait pas école. Les gens ont eu tendance, paradoxalement, à énormément sortir, à aller partout là où ils pouvaient aller, là où c'était pas encore fermé, tant qu'on était en quarantaine, pour soutenir l'économie. Et notamment, ils sont beaucoup allés au cinéma, ils sont assez beaucoup allés dans les bars. Donc là, ça va être assez intéressant, même au niveau interne, ce qui va se passer. Bon, pour la France, on est sur d'autres problématiques. Pour les moments, on est sur des grands événements qui ont été annulés. On a parlé évidemment du Salon du Livre, qui est un vrai coup dur pour les éditeurs, il faut quand même le dire. Le Salon du Livre, c'est le moment le plus important pour les petits éditeurs indépendants, notamment. On est aussi sur toute une série d'annulations qui se voient moins, si on considère que c'est la culture, de conférences, de grandes réunions scientifiques. Donc il y a aussi toute une série, par exemple, j'ai rencontré des traducteurs qui me disaient que ça y est, ils n'avaient plus de travail pour les deux mois à venir, puisque ni conférences, ni festivals, ni grandes réunions. Et puis effectivement, on a parlé du cinéma en France. Donc pour le moment, on en est à Miss, Rox, Mourir peut attendre qui sont reportés. Pinocchio, le film de Matteo Garran, dont la sortie est aussi reportée. Elle devait avoir lieu la semaine prochaine. La Daronne de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, sortie prévue le 25 mars. Là aussi, on a des dates ultérieures non reconnues. Et un petit peu comme ce qui s'est passé en Italie, on a une forme de rébellion d'une partie de la profession. Il y a le distributeur Memento du film d'Isabelle Huppert qui a signé une lettre ouverte aux professionnels du cinéma pour leur demander de, je cite, ne pas alimenter une psychose générale. La Bonne Épouse, qui est défendue cette fois par Alexandre Malegui, lui aussi distributeur, c'est la plus grosse sortie de Memento depuis 10 ans pour ces gens-là, qui exhorte les distributeurs, les producteurs à faire front tous ensemble pour écarter, je cite, une dangereuse spirale à la baisse de la fréquentation à coup de fermeture de salles et de reports de sorties. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les régions les plus touchées en France, notamment le Morbihan, il y a eu au début des indications pour fermer les salles, et en l'occurrence il y a 27 salles de cinéma du Morbihan qui ont demandé à pouvoir rester ouvertes et qui ont été autorisées par arrêt préfectoral à rester ouvertes. Donc là, il y a un moment assez étrange où effectivement, d'une part, on a des acteurs qui exhortent à faire un peu comme si de rien n'était, parce que leur survie, clairement financière, en dépend. Et puis, on a aussi d'autres secteurs. Les éditeurs, ils sont à la fois complètement ravagés et en même temps, ils ont visiblement pris la mesure des choses, puisqu'il y avait la foire de Londres, vous savez, la foire du livre, qui a lieu normalement la semaine prochaine, qui a été annulée, non pas à cause du coronavirus, parce qu'à Londres, il n'y a pas beaucoup de risques, mais parce que les principaux personnes qui devaient venir du monde entier, y compris les Français, ont opposé leur droit de retrait. Donc, ils ont fini par annuler, faute d'invités. Donc, voilà, situation un peu complexe.
À Londres, il y a malgré tout plus d'une centaine de cas en Angleterre, donc peut-être le débat est juste un peu reporté de quelques temps. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'en dépit du fait de savoir si c'est ouvert ou fermé, autorisé ou interdit, on voit bien dans l'aviation, pour l'instant les vols ne sont pas interdits en soi, mais l'aéroport Charles de Gaulle est désert et le nombre de vols, je crois des annonces vont être faites demain par Air France, les annulations sont très 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 massives, donc les gens de toute façon, avec ou sans interdiction, réagissent souvent à l'avance. Je précise encore qu'il y a un conseil de défense qui se tient en ce moment même à l'Élysée sous la présidence d'Emmanuel Macron, Emmanuel Paquette.
Oui, alors sur les vols, d'ailleurs, il y a un article qui est paru dans la presse américaine très intéressant qui parle maintenant de vols fantômes. Oui. C'est-à-dire que les compagnies aériennes, pour ne pas perdre leur slot horaire, font voler leurs avions à vide, donc avec des dépenses de carburant pour rien, mais pour pas perdre les créneaux horaires qu'ils ont dans les aéroports, et ben les avions continuent de voler.
On a vu ces images dans les journaux de 20h hier soir.
Exactement.
Les avions volaient seuls. D'autres annulations, notamment annoncées, je crois, tout récemment, Southwest, un des principaux festivals aux États-Unis, à la fois de musique et de numérique.
Exactement.
À Austin.
Et en France, le spectacle musical serait sur une tendance à moins 50%. Ça serait un chiffre inférieur à celui de 2015 après les attentats du Bataclan. Donc la profession crie déjà un petit peu à l'aide et demande un soutien du ministre de l'économie Bruno Le Maire, en tout cas un plan d'action sur 3 mois des TPE, PME. Et pour les salles, les 90 salles en France de plus de 5000 personnes, il y a déjà des reports de concerts. Alors un qui vous tient particulièrement à cœur, par exemple Frédéric, le concert de Matt Pokora qui va être décalé dans le temps, donc je suis désolé de vous l'apprendre.
Il pleure déjà.
Et beaucoup d'autres
quoi
en cours, je suis désolé. Alors il faut savoir quand même que le spectacle vivant, c'est 65 000 représentations par an, c'est 120 000 personnes qui y travaillent, et c'est quand même un chiffre de 4,9 milliards d'euros, donc c'est une industrie à part entière qui est touchée. Parmi les tourneurs, les trois grands tourneurs, donc Live Nation, AEG, Fimalac, sont en train de voir avec leurs artistes s'il faut décaler les concerts à la fin de l'année, ce qu'ils essayent de faire pour pas totalement les annuler. Donc aujourd'hui, les billets sont toujours valides, mais jusqu'à quand? On n'en sait toujours pas.
Oui, précisons enfin que l'épidémie n'est pas dans le, au même niveau entre l'Italie et la France, donc ça laisse un peu de temps sans doute. Et puis la stratégie aussi est différente. Il est tout à fait possible que le gouvernement français choisisse une stratégie différente. Par exemple, il y a le débat sur les écoles. Est-ce que faire en sorte que les enfants n'aillent pas à l'école, ce qui veut dire qu'il faut bien les placer quelque part. Si on les met chez les grands-parents, c'est pas forcément l'idéal pour éviter la contamination des personnes les plus vulnérables, notamment les plus âgées. Donc différence de l'épidémie, différence de stratégie. On verra comment toutes ces questions évoluent dans les semaines et peut-être même les heures à venir. Autre sujet d'actualité ce soir dans Soft Power, les mémoires de Woody Allen. L'éditeur Hachette a annoncé ce week-end avoir renoncé à la publication aux États-Unis des mémoires de Woody Allen. C'est l'éditeur Hachette. En France, Manuel Carcassonne, qui s'est exprimé ce matin dans Le Point, confirme pour sa part qu'il va tout faire pour essayer de publier en France ses mémoires, ce qui ferait une sorte de... Ce serait un peu comme les films de Woody Allen qui connaissent de vraies difficultés aux États-Unis, mais qui continuent, Zoé Sfez, à exister assez fortement en France.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est un cas qui va faire probablement école. Il est intéressant à probablement double niveau, ce cas Woody Allen. Donc en fait, c'est Hachette USA qui renonce à publier ses mémoires. Donc que s'est-il passé? Woody Allen essaye de faire publier ses mémoires aux États-Unis depuis de nombreux mois. Il n'avait trouvé d'accord avec aucune maison d'édition. Finalement, il en a trouvé une, donc, avec Hachette. Alors, l'ouvrage qui donc est censé raconter donc sa vie professionnelle, on ne l'a pas lu. Et sa vie personnelle, il a 84 ans aujourd'hui.
Manuel Carcassonne l'a lu, dit c'est un livre remarquable, en gros.
C'est un livre remarquable, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il s'exprime, ou est-ce qu'il mentionne, ou est-ce qu'il raconte, est-ce qu'il répond, finalement, à l'accusation de l'une de ses filles adoptives, Dylan Farrow, qui l'accuse de l'avoir abusée sexuellement quand elle avait 7 ans. Cette fille, donc, c'est une de ses filles adoptives, et celle de Mia Farrow, et c'est son frère, Ronan Farrow, qui a, disons, fait émerger le mouvement MeToo en publiant un long article contre Harvey Weinstein, donc qui est une figure de proue de cette question. Et c'est d'ailleurs suite à l'annonce de cette parution et suite à surtout un tweet de Ronan Farrow il y a quelques semaines que les choses ont commencé à carrément devenir houleuses pour Hachette aux États-Unis.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la raison de l'annulation par Hachette concerne ses salariés.
Bah alors, Ronan Farrow explique dans son tweet qu'il reproche à Hachette d'être son propre éditeur, parce que Hachette a publié Ronan Farrow, et de lui avoir caché qu'ils allaient publier les mémoires de son beau-père qu'il accuse de viol sur sa sœur. Il reproche aussi surtout toujours à cet éditeur de ne pas avoir vérifié les propos de Woody Allen dans ce livre. On suppose que Ronan Farrow donc a dû avoir accès à une forme de contenu. Et c'est après ce tweet qu'une centaine de salariés du groupe Hachette aux États-Unis a commencé à faire des manifs la semaine dernière. Et c'est donc en invoquant le bien-être de ses salariés que Hachette explique renoncer à ce livre. Le communiqué explique effectivement que dans ces conditions, je cite, nous ne sommes pas en mesure de publier ce livre. Alors, c'est une situation donc américaine. Hachette va probablement, alors que le livre était déjà en tête des best-sellers de Amazon, donc c'est-à-dire qu'il a déjà été prévendu beaucoup de fois, va donc, c'est théoriquement ce qui peut se passer, ce qui va se passer, rendre ses droits à Woody Allen. Et c'est là où c'est aussi intéressant, c'est que rien n'empêche en réalité Woody Allen de publier pour le moment, en théorie, en droit, quand même ses mémoires en France. Donc en France, c'était Manuel Carcassonne, donc c'était les éditions Stock, qui appartiennent aussi au groupe Hachette, mais au groupe Hachette France, qui devait sortir ce livre sous un titre un peu différent, qui d'ailleurs, je crois, est en passant, quelque chose comme ça. Et donc pour ça, il faudrait que Woody Allen récupère ses droits, qu'il les redonne à Stock, et que Manuel Carcassonne, eh bien, ne fasse pas face à de même type de contestation. En tout cas, il a l'air de dire que lui reste engagé sur ce livre. Tout ça est relativement intéressant. Pourquoi? Parce que ça traduit un peu ce qui se passe pour la carrière du cinéaste depuis quasiment, on va dire, 6 ans, depuis essentiellement le retour de l'affaire MeToo et la montée en puissance de Ronan Farrow, et donc de sa défense de sa sœur Dylan Farrow, puisque Woody Allen ne tourne plus aux États-Unis. La plupart de ses films, au moment où il avait où cette affaire MeToo a explosé, beaucoup de gens comme Amazon ont arrêté de travailler avec lui. Et pendant ce temps-là, en Europe, il reste toujours bienvenu. Son dernier film a été un assez bon succès en salle, et il tourne un film en ce moment avec des acteurs européens, dont Christopher Valls et Louis Garrel, qui est aussi un homme crucial du film de Polanski. Donc ça va être assez intéressant de voir si effectivement Manuel Carcassonne peut publier ce livre, et s'il y a une espèce de disjonction entre le statut de Woody Allen, entre les États-Unis et la France.
Manuel Carcassonne qui déclare dans Le Point ce matin: la France n'a pas été le lieu des querelles familiales entre Woody Allen et son ex-femme Mia Farrow, ni avec Ronan Farrow. Le public français décidera comme il a décidé en allant voir le dernier film de Woody Allen, qui n'a pas pu sortir aux États-Unis. Publier, c'est s'attacher avec respect à ce que chacun puisse s'exprimer dans les limites de la loi, que le talent puisse être défendu, que la notion d'auteur soit soutenue, quel que soit l'esprit du temps, il faut lui résister. Emmanuel Paquette.
Oui, résister et puis avoir des soutiens. En l'occurrence, Stephen King, l'auteur d'Épouvante, le fameux auteur d'Épouvante, s'est fendu d'un tweet. Alors, je vous cite ce tweet. « La décision d'Hachette de laisser tomber Woody Allen me met très mal à l'aise. Mm-hmm. Ce n'est pas lui, je me fiche de Monsieur Allen. Ce qui m'inquiète, c'est qui sera muselé la prochaine fois. » Et plus tard, donc ça a suscité beaucoup de réactions sur Twitter, et il a dit: c'est à vous de voter avec votre portefeuille, si vous ne voulez pas acheter ce livre, ne l'achetez pas. Et une autre réaction du PEN America. Alors le PEN America, c'est une association, une institution
de défense des écrivains,
de défense des écrivains et d'expression de la liberté. Donc sa dirigeante Suzanne Nozel a écrit: les lecteurs n'auront pas l'opportunité de lire et de se faire leur propre jugement, et donc elle critique la décision d'Hachette en disant que c'est une atteinte à la liberté d'expression des auteurs.
Mais pour quand même complémenter, vous avez tout à fait raison sur le tweet de Stephen King, qui à la fois c'est un anglicisme total, mais parce que je lis le tweet en anglais, à la fois Stephen King dit: publier Woody Allen après avoir publié son fils est une grande preuve d'insensibilité de la part d'Hachette. Donc en fait, c'est aussi une vraie question. Est-ce que si Hachette n'avait pas été la maison d'édition aussi de Ronan Farrow, on en serait arrivé là? C'est une vraie question et on est en droit de se la poser. Après, c'est aussi intéressant de voir qu'aucun éditeur, pour le moment, et avant cela, n'avait accepté de publier ce livre.
À suivre dans Soft Power, une semaine avant le premier tour des municipales, on parle ce soir des civic tech, c'est-à-dire des outils numériques, des réseaux sociaux et des données qui contribuent à une meilleure démocratie, ainsi qu'à plus de participation citoyenne. En tout cas, c'est l'idée dont nous allons débattre. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur l'album solo du chanteur du groupe pop anglais Pulp, Jarvis Cocker, qui chante désormais sous le pseudonyme de Jerry Ease. Ce nouveau morceau, House Music All Night Long, a été décrit par John Parles dans le New York Times ce week-end comme le titre spécial épidémie et virus. En effet, le chanteur rejette les nuits de techno dans les clubs pour écouter sa musique tout seul chez lui. Une musique pour un monde d'intérieur, chante-t-il. La musique seule capable de nous sauver de la claustrophobie. C'est pas beau ça? On le sait depuis Nietzsche, la citation est exacte. Sans la musique, la vie par temps de coronavirus serait une erreur.
Lost in the land of the living room, adrift in a world of interiors. It's serious. Who the hell would live in a house like this? Head deep in the basement, one foot on the pedal bin. This ain't easy. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you. I was listening to house music all night long, and all day too. I was waiting for you to come.